Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
N'ai pas d'ordre à recevoir de toi, négro. Tu sors de ta résidence surveillée, tu parles à une foule, tu seras au banc des accusés avec ta clique pour incitation à la haine raciale. Je ne plaide pas pour la violence de Vette, mais ne faites pas l'erreur de me manquer de respect. Malgré son lâche assassinat par la police raciste d'Afrique du Sud, malgré sa mort précoce à 30 ans seulement, Steve Biko aura considérablement marqué la lutte anti-apartheid dans les années 70, se singularisant par un discours nouveau, celui de l'égalité entre les races et leur coexistence pacifique dans une Afrique du Sud multiraciale, plus forte et plus belle. Plus de 20 ans après sa mort, son nom mobilise toujours davantage de sympathisants. Dans la première partie de cette émission, en deux volets que nous lui consacrons, nous avons parcouru les grands moments de sa vie jusqu'à sa rencontre avec le journaliste Donald Woods, c'est-à-dire dans les années 1975. Dans cette seconde partie, nous allons visiter les dernières années de sa brève mais riche existence. 1975, devant l'ampleur que prend le mouvement Conscience Noire créé par Steve Biko quelques années plus tôt, la police décide à nouveau d'assigner son leader à résidence à King's Williamstown. Son discours gêne beaucoup les autorités racistes sud-africaines, puisqu'il ne prône pas la lutte entre les races. Il n'envisage pas une Afrique du Sud noire comme beaucoup d'autres leaders de sa couleur. Il milite pour une Afrique du Sud multiraciale, où toutes les races seraient égales, où blancs et noirs bénéficieraient des mêmes droits, où le noir ne serait plus jugé par rapport au blanc. Bref, une Afrique du Sud plus égalitaire et plus juste. Son discours n'est pas anti-blanc, et de plus, il ne prône pas la lutte armée. Il est contre la violence. Ce discours qui ne peut que séduire tant il est logique ne fait pas l'affaire des autorités sud-africaines qui ont toujours justifié leur répression en prétextant la volonté d'en découdre des populations noires. Mais malgré l'assignation à résidence de Steve Biko, la colère gronde dans les townships où sont parqués comme du bétail la majorité des noirs. C'est dans ce climat plutôt tendu que la violente police fait une descente musclée dans un des townships nègres, celui de Crossroads. Et comme d'habitude, les agents triés sur le volet par leur haine viscérale du noir vont faire un carnage, tuant et violant femmes et filles, molestant à mort une centaine d'hommes. Leurs chiens policiers, dressés pour ce type de circonstances, vont être lâchés dans le tas. La dite police ne va même pas hésiter à tirer sur une population surprise et sortie très tôt de son sommeil. Lorsque la meute de policiers et leurs chiens vont se retirer après avoir pris le soin de détruire et de brûler entièrement le township de Crossroads, elle va passer le relais à la presse nationale. Les médias acquis à la cause de l'administration nationaliste blanche vont naturellement minimiser les faits, travestissant même les raisons de cette descente policière.
This is the English language service of Radio South Africa. Here is the news read by Magnus Randall. Police raided Crossroads.
La police a investi les townships de Crossroads, bidonville noir, près du Cap, après avoir prié les squatteurs de l'évacuer pour des raisons d'hygiène. Certains d'entre eux n'avaient pas de permis de travail et beaucoup ont été renvoyés dans leur homeland. Aucune résistance à la police. De nombreux irréguliers se sont présentés d'eux-mêmes à la police.
Le comble, c'est dit irrégulier dont on parle, il ne s'agit pas de travailleurs immigrés, mais bien de Sud-Africains, irréguliers dans leur pays, simplement parce qu'ils leur font un laissez-passer pour circuler. Ils doivent se contenter de rester là où l'administration a décidé de les confiner. Mais ceci est un autre débat. Au moment où cette descente de police a lieu, Steve Biko, bien qu'introuvable par sa famille, n'est pas dans ce township de Crossroads. Pourtant, un journaliste blanc du nom de Donald Woods, descendant d'une famille anglaise établie en Afrique du Sud depuis 5 générations, rédacteur en chef du Daily Dispatch, un journal libéral et prospère, va mettre en cause, dans un article, le discours de Steve Biko qu'il trouve raciste et anti-blanc. Steve Biko, qui n'a pas le droit de quitter sa résidence, va inviter ce notable du Cap, un peu mal à l'aise en ce qui concerne l'apartheid, mais qui sait aussi fermer les yeux sur certaines choses, à venir le voir. Le journaliste accepte. Cette rencontre est plutôt timide et prudente. Steve Biko, qui n'a pas sa langue dans la poche, va lui expliquer succinctement son idéal d'Afrique du Sud. À Donald Woods, qui essaie de lui dicter la conduite à suivre, sa réponse est sans détour.
Je suis enclin à penser qu'un libéral blanc, jouissant de tous les avantages du monde blanc, emploi, villa, instruction, Mercedes, n'est peut-être pas le plus qualifié pour dire aux Noirs comment réagir à l'apartheid.
Biko explique à Woods le sens de son combat. Pour retrouver leur dignité, les Sud-Africains noirs doivent mener leur combat dans un premier temps, dans la première étape de la lutte pour la libération nationale. Il n'y a pas chez Conscience Noire rejet du blanc progressiste luttant contre l'apartheid. Mais l'avant-garde de ce combat doit être composée de noirs.
Rappelons-nous que nous luttons pour tuer l'idée qu'une race d'hommes est supérieure à une autre. Et cette idée qu'il faut tuer, elle n'est pas l'apanage du seul homme blanc. Il faut que nous cessions d'en attendre quelque chose. La communauté noire doit s'emplir de sa propre fierté.
Donald Wood, convaincu par les arguments des Biko, devient son ami. Il s'engage dans son combat, le soutient ouvertement. L'establishment sud-africain commence à montrer sa désapprobation. Discrètement tout d'abord, mais avec de plus en plus de brutalité par la suite. Woods est qualifié de révolutionnaire mal renseigné, puis plus tard de renégat. Entre-temps, le mouvement Conscience Noire prend de l'ampleur et la police sud-africaine commence à paniquer et à commettre des bavures. En 1976, le gouvernement sud-africain décide d'imposer l'apprentissage de l'Afrikaans, la langue des Afrikaners d'Afrique du Sud, dans les écoles noires. Cette langue qui représente de façon criarde la suprématie du blanc et qui est perçue comme la négation des langues zoulous et autres, n'est pas du tout acceptée par les élèves noirs. Des mouvements s'organisent pour s'opposer à l'instauration de cette pratique colonialiste. Steve Biko, qui est assigné à résidence, milite aussi pour que cette mesure ne soit pas appliquée. Il explique les raisons de son refus.
L'important, c'est de ne pas accepter leurs restrictions. C'est pour ça que les jeunes de Soweto qui refusent les cours en Afrikaans ôtent de leur esprit des chaînes que personne ne pourra leur remettre.
1976. Des centaines de jeunes de Soweto, la cité noire, sont descendus dans la rue pour manifester contre l'obligation d'apprendre la langue Afrikaans. La police arrive et fait un carnage, tirant sans distinction sur les enfants sans armes, faisant de nombreux morts. Certains ne vont même pas hésiter à tirer sur d'autres gosses qui transportent difficilement la dépouille de leur frère ou sœur abattu. C'est le massacre de Soweto. Pourtant, dans les premières heures qui vont suivre cette boucherie humaine, la presse sud-africaine va s'arranger, comme d'habitude, à minimiser les faits, faisant même passer les policiers génocideurs pour des pauvres victimes. Et plus grave encore, certains journalistes occidentaux vont tomber dans ce gros piège tendu. Voici un commentaire écouté à l'époque sur France Inter. Il faut dire qu'il est fait quelques instants après les émeutes, mais tout de même.
6 personnes au moins ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans un faubourg africain de Johannesburg, en Afrique du Sud. Parmi les victimes, des policiers qui essayaient de disperser les manifestants noirs qui s'étaient regroupés au cours d'une des écoles de ce faubourg et qui protestaient contre le système de l'enseignement. Aymon Franck, correspondant sur place de la radio suisse romande.
Selon le responsable des opérations de police à Soweto, la situation dans la ville noire proche de Johannesburg, où vivent plus d'un million d'Africains, est extrêmement grave. Personne ne semble, après une journée de troubles, être capable de dresser un bilan précis des accrochages qui ont mis aux prises plus de 10 000 lycéens et d'importantes forces de police. 6 personnes au moins, dont 2 policiers, auraient été tuées. Sur le plan matériel, les maisons détruites, les voitures brûlées ne se comptent plus. Le centre de Soweto était en fin d'après-midi toujours en main des émeutiers. La police, en effet, s'est retirée des quartiers tenus par les étudiants après les échafourées de ce matin et du début de l'après-midi. Il y a quelques instants, un porte-parole des forces de l'ordre admettait même que la tension continuait de monter. Un appel était lancé à tous les blancs qui auraient pu encore se trouver à Soweto de quitter la ville immédiatement.
Il faut ajouter, Ralph Pinto, que cette affaire de Soweto a commencé en fait il y a 5 semaines.
En effet, les étudiants de cette école technique s'étaient mis en grève en signe de refus d'apprendre la langue afrikaans, la langue des Afrikaners d'Afrique du Sud. Ce matin, les autres élèves des autres écoles se sont joints à eux et le rassemblement a dégénéré. On a entendu les slogans de pouvoir noir, ça c'est assez nouveau, et ses élèves ont même acclamé Lazani, c'est le nom africain de l'Afrique du Sud. C'est une affaire grave donc, et la police le reconnaît d'ailleurs, le correspondant de la radio suisse romande vient de nous le confirmer. Cette affaire qui intervient au moment où le Premier ministre d'Afrique du Sud, qui donne en modèle le développement séparé des communautés, au moment où Vorster donc essaie de convaincre l'autre pays africain dirigé par des Blancs, la Rhodésie, de faire participer les Noirs au pouvoir. On peut donc se demander si en se basant sur ces émeutes, les Rhodésiens ne chercheront pas la preuve que leur politique est la seule bonne. Mais ces événements de Soweto vont aussi apporter de l'eau au moulin des pays africains qui prônent la lutte contre le régime blanc de Pretoria et qui font l'amalgame entre l'Afrique du Sud et la Rhodésie. C'est enfin un événement bien malvenu à une semaine de la rencontre de Henry Kissinger et du Premier ministre sud-africain quelque part dans le sud de l'Allemagne fédérale. Les partisans de la méthode radicale vis-à-vis de l'Afrique du Sud pourront eux développer à partir de ces événements leur thèse selon laquelle si le régime de Pretoria peut encore rester en place, c'est uniquement grâce au soutien des Américains. Et puis, on peut se demander quelle sera la position des leaders africains modérés qui ont engagé le dialogue avec l'Afrique du Sud. Bien sûr, ils sont peu nombreux jusqu'à présent. Pour eux, en tout cas, une seule chose compte, c'est faire bouger les choses par ce dialogue en Afrique australe. À coup sûr, ces événements de Soweto ne peuvent que voler au secours des extrémistes africains, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs.
Pauvres policiers, pauvres gouvernements blancs d'Afrique du Sud, pauvres blancs victimes de l'extrémisme noir, aurait-on envie de dire après avoir écouté cet extrait. Il est, c'est vrai, quelquefois difficile de se réécouter après une telle bavure. Enfin, toujours est-il que ces événements de Soweto vont être la première grosse bavure de l'administration raciste sud-africaine, puisque très tôt, des photos prises pendant le carnage vont apparaître et faire démentir la version du gouvernement. Des photos qui vont faire le tour du monde et qui vont être exposées un peu partout et s'étaler dans la presse mondiale. On peut encore les voir au musée de Soweto et dans une exposition en plein air qui dure depuis plusieurs années déjà dans la ville martyre. On peut notamment y voir des images d'agents de sécurité qui tirent sur la foule qui fuit. Des photos d'enfants poursuivis par des chiens lâchés sur eux. Mais la photo la plus célèbre est certainement celle d'un jeune garçon d'une dizaine d'années portant à bout de bras son jeune frère de 8 ou 9 ans, mortellement blessé par balle, avec à ses côtés sa sœur beaucoup plus jeune, en larmes. L'opinion internationale est alors alertée, ce qui va amener le gouvernement sud-africain à durcir ses positions et à fermer les yeux sur les agissements de la police et des agents de sécurité. C'est l'escalade de la répression. C'est dans ce climat que Steve Biko est arrêté le 18 août 1977. Il n'est pas incarcéré dans n'importe quelle prison. Il est amené à celle de Port Elizabeth, qui s'est souvent illustrée par la sauvagerie de ses forces de sécurité. On y redoute la cruauté d'un certain major Sneeman. Les conditions de détention sont inquiétantes, puisque Steve Biko est maintenu nu et enchaîné dans sa cellule. Il est mis au secret. Ni ses amis, ni sa famille ne peuvent le voir. Malgré ses plaintes, personne ne fait attention à lui. Un tel gros poisson, c'est une aubaine de pouvoir le faire payer. Personne ne verra plus le leader de conscience noire jusqu'à ce jour du 12 septembre 1977 où les autorités annoncent la nouvelle de sa mort. Selon James Kruger, le ministre sud-africain de la justice, Steve Biko est décédé des suites d'une grève de la faim entamée le 5 septembre, c'est-à-dire 7 jours plus tôt. Le ministre de la justice le dit d'ailleurs avec une certaine arrogance dans le ton.
En réalité, Steve Biko est mort d'une grève de la faim. Nous avons tenté de le nourrir par intraveineuse avec un tube dans le bras. Je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas médecin.
Mais ce ton arrogant qui va faire exploser de rire tout le Congrès sud-africain montre bien que ce ministre de la justice qui jubile ne mesure pas encore l'ampleur réelle de la popularité du jeune défunt. Les funérailles de Steve Biko qui s'organisent dans tous les townships noirs d'Afrique du Sud vont mobiliser des milliers de personnes. La police qui craint des émeutes est sur les dents. Elle va même procéder à quelques arrestations et empêcher à de nombreux sympathisants de Soweto à se rendre à King Williamstown dans l'est de la province du Cap où ont lieu ces funérailles. Mais ces tracasseries ne vont pas dissuader des milliers de personnes de venir faire leurs adieux à leur leader.
Nous sommes ici pour pleurer l'un des enfants les plus chéris de la terre d'Afrique. J'aimais Steve Biko, mais je déteste le système qui l'a tué. Même aujourd'hui, jour des funérailles de Steve Biko, l'arrogance blanche a repoussé des milliers d'entre nous, venus ici simplement pour lui rendre hommage. Mais nous sommes là.
I hate the system.
Je déteste ce système. Mais j'accueille tous les Sud-Africains qui sont avec nous aujourd'hui pour pleurer l'homme qui nous a donné la foi en ce que ce pays pourrait être, en ce que pourrait être l'Afrique du Sud, quand tous les hommes seront des êtres humains égaux au sein de la famille de Dieu. Dans l'attente de ce jour, où l'isolation qui crée l'hostilité deviendra le rapprochement qui génère l'amitié et l'amour, retrouvons-nous tous dans cette chanson d'Afrique que Steve Biko chérissait autant que nous.
Après ce moment de stupeur et d'émotion, c'est la colère. Grâce aux photos de Donald Woods qui montrent les traces de torture sur le corps du leader de conscience noire, l'administration doit faire face aux protestations de milliers de sympathisants qui exigent de savoir les circonstances de sa mort. Cette fois-ci, James Kruger, le ministre de la Justice, se rétracte. La nouvelle version dit que Biko est mort de suite des blessures qu'il s'est faites en se débattant entre les mains de la police. Argument qui ne convainc personne. Devant la pression internationale et nationale, une pseudo-commission d'enquête est mise sur pied pour établir les circonstances réelles de sa mort. Là encore, malgré l'évidence qui montre que Steve Biko a été tué par les coups de ses geôliers et la négligence d'un médecin qui a permis, malgré son état, qu'il soit transporté nu et enchaîné à l'arrière d'une Land Rover sur 1000 km, la justice prononce le non-lieu. Le cas de Steve Biko est sans aucun doute celui qui a eu le plus grand retentissement, puisque grâce à son ami Donald Woods, le monde entier va peu à peu découvrir ce régime fascisant qu'elle regardait sans trop s'appesantir sur ses pratiques. 13 ans après, sous le poids de l'embargo et de l'isolation de l'opinion internationale, le régime raciste va tomber et laisser sortir l'autre grand leader de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, qui, après 25 ans de prison, va réconcilier l'Afrique du Sud avec la logique du « un homme, un vote ». Vingt ans après sa mort, Nelson Mandela va inaugurer à East London, en Afrique du Sud, une statue de Steve Biko, financée par le chanteur Peter Gabriel et l'acteur américain Kevin Klein. La même année 97, la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'établir la lumière sur les crimes commis au temps du régime de la ségrégation raciale, va rouvrir le dossier Steve Biko. Les cinq policiers, qui sont le colonel Harold Sliman, le lieutenant-colonel Gideon Newwood et les inspecteurs Ruben Matz, Dante Siebert et Johan Benneke, vont reconnaître avoir frappé et torturé Steve Biko et vont imputer sa mort à une cause accidentelle, puisque, disent-ils, ils ne souhaitaient pas le tuer. Et comme beaucoup qui se sont trouvés devant ce tribunal, ils ont demandé l'amnistie. Mais la famille de Steve Biko souhaite les poursuivre devant la justice, car elle estime un peu facile de passer ainsi l'éponge sur des crimes aussi froids. Et toute l'Afrique du Sud se demande encore si ce n'est pas le prix à payer pour recommencer une vie plus saine sur ce vaste territoire où coexistent toutes les races. En tout cas, l'image de Steve Biko plane toujours au-dessus de ce pays où son mouvement continue de véhiculer ses idées. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Vous souhaitez écouter Afrique d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet.